Bienvenue dans Hacker News Daily, le programme de Brie Radio. Je suis Claire Martin.
Et moi, Nicolas Moreau. Au menu aujourd'hui, OpenAI dévoile une puce nommée Jalapeno qui se placerait au-dessus du Blackwell de Nvidia et le nouveau Mac Mini avec ses processeurs M6 et M5 Pro.
On parlera aussi de la nouvelle autorisation de la FDA pour un dispositif portable qui mesure en continu les cétones et la glycémie, de l'interdiction des pourboires dans certains restaurants américains et de la question récurrente de la part d'intelligence artificielle dans les contenus de Hacker News.
Sans oublier un hommage à Dolly Parton et quelques autres sujets. On commence. On Hacker News, on retient l'accélérateur Jalapeno qu'OpenAI vient de présenter, présenté comme supérieur à la puce Blackwell de Nvidia. Un commentateur trouve ça très impressionnant, mais pose une vraie question ouverte. Est-ce que ces gains vont déborder hors du monde des accélérateurs pour modèles de langage? Et verra-t-on des puces généralistes faire des bonds de performance massifs une fois que la technologie des grands modèles sera utilisée pour concevoir les prochaines générations de puces? Côté Qwen, le fil Hacker News lié à la page Modelscope annonce la sortie de Qwen 3 Tui Flash Next pour demain. D'après la copie du texte anglais de la page faite au moment de la publication, il s'agit d'un modèle MEO multimodal redessiné avec 125 milliards de paramètres principaux, plus 51 milliards d'embedding n-gram et 6 milliards de paramètres activés par jeton.
Un point important, c'est que ces chiffres ne sont plus vérifiables aujourd'hui. La description initiale se trouvait sous le compte à rebours et elle a été rapidement retirée. Un commentateur retenait quand même qu'à environ un neuvième du coût d'entraînement, le modèle atteint des capacités comparables à Qwen 3.7+, tout en étant plus fort en codage et en cowork, et il évoquait une nouvelle attention qu'il pensait appeler Qwen Sparse Attention. Un lien GainFace a aussi circulé.
Dans la discussion matérielle, certains s'attendaient à un modèle D35 milliards, et un propriétaire de RTX 5090 espérait une variante 35B A3B pour la faire tourner localement. On lui a répondu que le modèle 27B, sorti la semaine dernière, est exécutable, sans l'avoir encore essayé, et qu'un autre utilisateur jugeait le 27B excellent sur une 5090, en estimant que ce nouveau modèle vise plutôt les Mac, les puces Trix Halo et le DGX Spark.
Toujours dans l'univers Qwen, un développeur a monté un Raspberry Pi avec un modèle Qwen de 35 milliards de paramètres et en a fait son assistant automobile local, avec une intelligence et une stabilité qu'il juge très impressionnantes. Il a relié des connecteurs ODB pour lire l'intérieur de sa voiture, ainsi que le service cloud du constructeur pour gérer des actions comme régler la clim ou ouvrir et verrouiller les portes.
Il a aussi donné au modèle l'intégralité du manuel de la voiture, puis connecté le tout à ses autres agents dans une salle de discussion commune. Résultat, la voiture peut répondre à des questions pratiques comme quand ajouter de l'huile et quelle sorte utiliser. Changement de sujet avec Apple, qui a renouvelé ses ordinateurs de bureau avec deux annonces. Un nouveau Mac Mini, équipé des puces M6 et M5 Pro, et un nouveau Mac Studio, avec les M5 Max et M5 Ultra. Un utilisateur en Europe retenait que le Mac Studio, avec M5 Ultra, démarre à 5 499 $ aux États-Unis.
Mais cette montée en gamme a un revers, et un commentateur le dit clairement, c'est un adieu émotionnel au Mac Mini très bon marché qu'on utilisait depuis un moment. Il en avait acheté pour sa famille, et certains servaient de serveurs de compilation iOS et macOS dans un placard à son ancien job, et il rappelle qu'ils étaient excellents dans ce rôle, même si l'offre actuelle reste un bon compromis. Autre sujet, un article du site Subsite revient sur les constantes prédéclarées de Python, qui sont en fait plutôt bizarres. Dans la discussion, quelqu'un demande si l'ellipsis, les trois points, se comporte aussi comme true, false et none, c'est-à-dire comme un jeton lexical qui se résout en une valeur câblée pendant l'analyse syntaxique.
La réponse, c'est oui pour l'essentiel, avec une nuance. Ellipsis est simplement une constante prédéfinie ordinaire, avec la même valeur, et non un objet spécial réservé à part comme le sont les vrais mots-clés du langage.
On s'est beaucoup tapé sur les fichiers locaux quand on manipule des graphes au boulot, et visiblement, le développeur derrière LatticeDB partait du même constat. Il a présenté son projet sur Hacker News comme une sorte de SQLite, mais pour les bases de graphes, un fichier local, facile à travailler, au lieu des bases de graphes qui s'avèrent pénibles à manipuler chez soi.
Et un commentaire soulève justement la question qui m'est venue aussitôt. À quelles échelles de données l'auteur a-t-il pu tester cette conception? C'est l'inconnu classique avec cette approche de type SQLite, on comprend l'intérêt du fichier local pour beaucoup de cas d'usage, mais la limite de charge reste à préciser.
Autre nouvelle qui va ravir pas mal de monde, Firefox 157 va inclure JPEG XL par défaut, sur toutes les plateformes. Un type a d'ailleurs lancé la question sur Hacker News pour savoir combien de monde n'a pas encore entendu parler de ce format en 2026.
Et dans la discussion, quelqu'un pointe un vrai cas qui frotte. Quand un PDF contient une image JPEG XL, ce PDF met un temps fou à s'ouvrir. Donc l'adoption du format dans le navigateur, c'est bien, mais l'expérience reste inégale selon les outils qui l'embarquent.
Le problème des infobulles qui s'ouvrent au survol, tout le monde l'a vécu en balayant une liste de logos à la souris. L'auteur décrit la solution mise au point pour un outil d'entretien qui affiche des logos d'entreprise à côté des questions. Avec un délai de 0 milliseconde, chaque survol ouvrait instantanément une infobulle, et en passant d'un logo au suivant, on déclenchait un vrai feu d'artifice.
Donc il a introduit 3 temps. Le survol patiente, 200 millisecondes avant d'ouvrir. Ensuite, après la fermeture, un minuteur de 300 millisecondes ouvre une fenêtre chaude où le survol suivant s'ouvre instantanément, sans animation. Et quand le minuteur expire, la page redevient froide et le délai de 200 millisecondes revient. Un survol de moins de 200 millisecondes annule d'ailleurs le minuteur et n'ouvre aucune infobulle.
Un commentateur dit avoir affronté exactement le même souci il y a 20 ans, avec des menus au survol, une dizaine de lignes de JavaScript et quelques variables globales que lui seul comprenait, avec un repli en CSS pur. Un autre suppose que le JavaScript servait justement au délai, puisque les transitions CSS n'existaient pas encore et qu'IE6 était un navigateur majeur à l'époque. Cette fois, ça devient sérieux. Les instances publiques de Niter affichent toutes la même erreur, celle qui dit que l'instance a été limitée en débit. Et le fil indique que Niter et Xcancel ont reçu des notifications de cessation et d'abstention. Un participant précise que l'équipe a bien reçu des lettres cease and desist et attend un avis juridique. Et que pour le moment, toutes les instances Niter doivent rester hors ligne pour un avenir prévisible.
Un message du groupe Matrix de Niter détaille les exigences. Retirer définitivement le site et le dépôt GitHub. Supprimer toutes les données X. Cesser d'utiliser les marques Twitter et X. Cesser tout accès aux données X, y compris les copies. Supprimer tous les identifiants et jetons de session. Et confirmer la conformité par écrit sous 3 jours ouvrables. La lettre invoque une violation des conditions d'utilisation de X, de l'accord développeur et de sa politique, de la loi texane sur l'accès informatique préjudiciable et du Lanham Act. Elle menace le destinataire de poursuites à titre personnel, et X indique avoir aussi prévenu GitHub et le registraire du domaine.
Dans la discussion, quelqu'un trouve étrange d'attendre un long avis juridique, puisque n'importe qui peut envoyer une telle demande. Un autre répond que des conseils juridiques coûtent souvent entre 20 000 et 100 000 dollars, et propose que Niter lance un appel aux dons pour couvrir les frais, beaucoup de gens étant prêts à donner.
On passe à un sujet de physique qui a fait discuter sur Hacker News, un papier d'astrophysique, qui affirme que la singularité d'un trou noir est une surface et non un point. Un commentaire remet vite les choses en place. C'est une critique des clichés de la vulgarisation scientifique, pas un nouveau résultat de recherche. N'importe qui ayant suivi un cours de relativité générale au niveau master aurait pu le dire.
Et un autre envoie vers les cours de Suskin sur la relativité générale pour qui veut voir la chose expliquée proprement. Donc ce n'est pas une découverte fracassante, mais une remise en ordre utile sur la façon dont on présente souvent ces objets. La discussion Hacker News autour du titre Starbase là renvoie en réalité à une annonce pour un site en Louisiane. L'un des commentateurs, Chast00, estime que si le projet se réalise, ce sera une période faste pour les soudeurs, les artisans du béton, les entrepreneurs généraux et les métiers du bâtiment de l'État, et son argument tient au contexte. La côte louisianaise figure parmi les zones les plus pauvres des États-Unis, plus encore que la vallée du Texas où se trouve Starbase Texas, et le chantier pourrait représenter 10 à 20 ans de travail. Un autre, Swing Andamis, ajoute que beaucoup de gens sérieux et travailleurs de la région seraient ravis de ces emplois.
L'autre versant du fil, c'est une palette d'objections. Pink Muffiner évoque les ressources naturelles, les ports, des entreprises autorisées à ne pas payer leur part d'impôts ni à nettoyer leurs déchets. Puis une longue histoire de corruption, la montée des mers et une pollution cancérigène. Géchamonlive pose la question de fond. Parle-t-on d'une main-d'œuvre bon marché, utilisée comme argument électoral pour voler des emplois aux Américains? Ou de salaires décents qui feraient grimper les coûts de construction et enflammeraient l'inflation? Une inflation qu'il attribue d'ailleurs à des droits de douane criminels.
S'y mêle du scepticisme sur les chiffres annoncés et sur leur portée. Sigmoid 10 calcule environ 20 000 dollars par résident de Louisiane si les chiffres de l'annonce se confirment, tandis que Rian Biem ironise sur la fiabilité de chiffres venant d'une entreprise de Musk. Et personne ne tranche réellement la question, soulevée par Voyage, de savoir si 3000 nouveaux emplois suffisent. Chast00 répond que cela ne règle pas tout, mais que les retombées locales, restaurants, Walmart, réparations auto et l'installation durable de certains travailleurs l'emportent sur le choc pour la région. La FDA a autorisé le premier appareil portable capable de surveiller en continu à la fois le taux de cétone et la glycémie. Et sur Hacker News, le débat s'ouvre sur qui va réellement s'en servir. CK2 parie que les marathoniens et les coureurs d'ultra-trail vont se mettre à l'utiliser pour améliorer leur performance. Il dit ne pas y voir de problème, mais que c'est prévisible.
Le même commentateur fait une remarque plus technique. Ce n'est pas vraiment portable, comme une montre. Et il prédit que ce format-là pourrait finir par arriver là aussi, puisque Garmin travaille déjà dans cette direction.
Un article de la BBC demande pourquoi certains restaurants américains suppriment les pourboires, Et sur Hacker News, la discussion part immédiatement sur la pression sociale du bouton No Tip. Dead Babe estime d'emblée que les magasins devraient aussi interdire les pourboires.
Ombre Fatale enfonce le clou. C'est délirant, dit-il, de voir comment ça profite des gens honnêtes qui ont l'impression de mal faire en tapant sans pourboire dans des endroits où, il y a seulement 5 à 10 ans, personne ne demandait rien.
Sur la nouvelle selon laquelle la pêche à l'explosif ravage les récifs coralliens en Indonésie. Les commentaires s'interrogent sur les causes, pas sur la technique. BCJDJ Sandon suggère d'envoyer des subventions depuis les grandes caisses américaines, et si c'était le cas, il n'aurait pas besoin de recourir à ça.
Paymapi répond que ce commentaire est brusque, mais pas techniquement faux, c'est très probablement la pauvreté et le mode de vie de subsistance qui pousse à l'adoption de cette technique, et une grande partie de cette situation en est l'origine.
L'article intitulé « Mon ami Aaron » donne lieu sur Hacker News à une discussion très sombre autour des marchés de prédiction. Curunor rappelle que le meurtre est toujours, par nature, un acte dramatique et parie qu'on verra un assassinat lié à un marché de prédiction d'ici moins de 5 ans.
MySip pousse plus loin. Selon lui, chaque marché de prédiction est en réalité un marché à l'assassinat. Ils prétendent échanger de l'information, dit-il, mais c'est plutôt de l'influence qui se négocie. Du côté de Hacker News, toute la communauté a réagi à l'annonce de la mort de Dolly Parton le 25 août, rapportée en premier lieu par le Guardian, puis reprise par CNN, le New York Times et le Hollywood Reporter.
Et sous fil, c'est la réaction d'un internaute baptisé Mike Stu qui illustre bien sa place singulière. Il reconnaissait n'avoir jamais été un grand fan de country music, tout en disant avoir toujours eu de l'estime pour elle. Le fait même qu'un non-amateur du genre prenne la peine de commenter montre que son statut dépassait largement les frontières de la country et atteignit un public plus large.
Un autre fil très suivi s'interroge sur une question étonnante. Quelle part du contenu de Hacker News est en réalité générée par des intelligences artificielles? Un article du blog CoreDump. CX s'y attaque en s'appuyant sur l'outil de détection Pangram pour repérer les contributions artificielles.
Mais dès les commentaires, un internaute nommé JDW64 soulève une réserve de fond sur la méthode. Il demande si la capacité de détection de Pangram est réellement jugée élevée, notamment dans les cercles anglophones. Tout l'article repose sur l'hypothèse que ce détecteur est hautement efficace, alors que cette efficacité n'est pas garantie.
C'est donc une limite assumée. La réponse à la question posée dans le titre dépend entièrement de la précision de l'outil de mesure, dont la fiabilité reste contestée. Si Pangram surévalue ou sous-évalue la présence d'IA, la conclusion avancée par l'article s'en trouve directement affectée.
Nous avons fait un sacré tour d'horizon entre les promesses des nouvelles puces OpenAI et Apple, du jalapeno au Blackwell de Nvidia, jusqu'au futur Mac Mini et Mac Studio avec leurs puces M5 Ultra et M6.
Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt pour la suite de l'actualité technologique.